journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Dernière étape de plaine, dernière étape de moyenne montagne avant évidemment d'aborder demain la haute, la grande montagne, les Pyrénées qui nous attendent demain avec cette première étape de montagne. C'est vrai que c'est toujours un grand moment, on va en parler dans quelques instants avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. En attendant, il y a eu une étape aujourd'hui, une bien belle étape remportée par un bien beau champion qui se nomme Peter Sagan, le porteur du maillot vert, déjà vainqueur de 3 étapes l'an dernier et qui aujourd'hui eh bien n'a laissé à personne la possibilité de remporter cette étape. Il a fait rouler son équipe et à l'arrivée, il s'est imposé au sprint. Tout de suite, le replay de cette étape. Sylvain Chabanel, Fred, qui n'est pas très loin au classement général hein, et qui aujourd'hui donc a les mains libres pour tenter sa chance tout à l'heure, sait-on jamais, même si on sait que ce sera difficile pour lui de s'extraire. Il est toujours en embuscade au classement général.
Bien sûr, hein. À 6 secondes du leader Daryl Rimpey, 6 secondes. Rappelons qu'il n'y a pas de bonification aux arrivées sur le Tour de France depuis plusieurs éditions maintenant. Il lui faudra donc, s'il rêve du maillot jaune, partir à la manière d'un finisseur. On l'avait vu notamment en direction d'Ajaccio, tenter le coup le long sur le bord de mer, c'est magnifique, en direction des îles Sanguinaires. Il avait échoué d'un rien, laissant Jan Bakelands aller l'emporter en solitaire devant Peter Sagan pour une seule seconde. C'est vrai que Sylvain Chabanel est à 6 secondes, il est dans le même temps que des coureurs comme Christopher Froome, Richie Porte ou que son équipier Michał Kwiatkowski, porteur du maillot blanc de meilleur jeune. Ils sont plusieurs à pouvoir rêver du maillot jaune, mais c'est probablement Sylvain Chabanel qui a le plus le profil, ou en tout cas le plus l'audace, le plus l'expérience, et qui en rêve peut-être plus que les autres, ouais, d'aller chercher le maillot jaune.
Bon, tu y crois, Fred? On sait que tu avais misé tout à l'heure toutes tes économies sur Sylvain Chabanel. Il faut dire que tu as eu des étrennes pour ton
exactement,
anniversaire hier.
Exactement.
Donc tu as assez sérieusement étoffé. T'en as gardé sous la semelle. Tu y crois pour Chabanel aujourd'hui? Le final, c'est peut-être pas vraiment pour lui.
Ce n'est de toute façon pas favorable à un coureur échappé. Le final. Autant les 200 kilomètres, les 200 premiers kilomètres de l'étape sont parfaits pour des baroudeurs, des attaquants avec ses routes escarpées et des routes vallonnées, autant le final dans Albi avec ses longues lignes droites. Rappelons que l'arrivée est jugée au terme d'une ligne droite d'un kilomètre 200. On n'en voit pas le bout. Sylvain Chabanel, il va falloir qu'il prenne du champ avant. Ce sera très très compliqué, ouais, évidemment.
D'autant que Daryl Impe, Lucho, bien, il y tient à ce beau maillot jaune, lui qui l'a revêtu hier pour la première fois en l'enlevant des épaules de son coéquipier Geraint, Daryl Impe qui fait un beau maillot jaune et qui est là aux avant-postes du peloton, hein, Lucho.
Oui, oui, tout à fait. Daryl Impe qui, ben, c'est vrai que c'est un petit peu la surprise d'aujourd'hui parce que on aurait pu voir par rapport au train de la Calandelle le voir décrocher avec les autres sprinteurs. C'est pas le cas, donc il risque peut-être certainement de pouvoir garder son maillot jaune ici à Albi aujourd'hui. Ça serait une très très belle surprise pour lui, pour toute son équipe, parce que tout le monde le voyait perdant, hein, perdre son maillot jaune aujourd'hui. Donc très belle surprise. Et puis quant à Sylvain Chabanel, oui, il peut jouer un coup aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'il reste plus que l'équipe Calandelle pour emmener sa gagne. Il n'y a plus d'équipe de sprinteurs si jamais les Cavendish, Greipel et Kittel ne reviennent pas sur le groupe Sagan. Il a un coup à jouer quand même dans le final, et comme le disait Fred tout à l'heure, et c'est vrai que la dernière ligne droite fait 1,2 km, mais peut-être, pourquoi pas, d'attaquer au kilomètre pour Sylvain Chabanel, lui qui est un très très bon rouleur, on le précise, il est quand même champion de France du contre-la-montre. Il a prouvé qu'il était très très fort dans ce genre d'exercice, et il peut créer la surprise quand même, Sylvain, donc il ne faut pas le laisser de côté.
La moto RMC qui se retrouve devant les trois hommes de tête avec Georges Quirino, les trois hommes qui continuent de bien s'entendre, Georges.
Oui, à toute vitesse, à près un peu plus de 60 km/h dans cette route au profil descendant. On domine les plaines vallonnées du Tarn. On est juste devant les trois hommes de tête qui ont tous les mains en bas du guidon, à fond, à bloc. Cyril Gauthier notamment qui est en train de prendre le relais actuellement. Il relance. On voit également le coureur de la formation Euskaltel, le basque Juan José Oroz, tête baissée pour se concentrer dans son effort. On est désormais dans une portion descendante toujours. Ils arrivent vraiment à toute vitesse derrière nous. On est sous les arbres, donc ils vont un petit peu pouvoir se rafraîchir, les coureurs qui ont pris le soleil sur le crâne pendant toute la journée et sur ces routes qui serpentent un petit peu dans les monts du Tarn là. Eh bien, on ne voit pas pour l'instant l'avant-garde du peloton emmené par les Cannondale. En tous les cas, ces trois-là ne se retournent pas, concentrés dans leur effort. Ils ont tous fermé leur maillot. Cyril Gauthier qui reprend un petit coup d'eau là pour se réhydrater avant d'attaquer la dernière difficulté de la journée dans quelques instants.
26 km encore à parcourir et toujours trois hommes en tête, Fred.
Mission suicide ou harakiri, c'est au choix pour les trois hommes de tête. Yann Bakelants, Juan José Oroz, le Basque, et Cyril Gauthier, le Breton de l'équipe Europcar. Bakelants, on se souvient de lui, il a remporté l'étape d'Ajaccio en Corse et il a porté le maillot jaune. Ces trois-là, à 25 km de l'arrivée à Albi, comptent une avance qui ne cesse de fondre. 35 secondes au dernier pointage sur un peloton maillot jaune lancé à vive allure. Un peloton où l'on trouve les principaux prétendants au classement général, évidemment les grands favoris, mais aussi Peter Sagan, le maillot vert, qui vise sa première victoire d'étape sur le Tour en 2013. Lui qui a déjà terminé trois fois deuxième, il chasse et il a littéralement éjecté la concurrence dans la traversée de la Montagne Noire, puisqu'on vous le rappelle, les sprinteurs, qu'ils s'appellent Greipel, Kittel ou Cavendish, ont été lâchés, ont longtemps résisté en faisant rouler leurs équipiers dans un groupe d'attardés, mais se sont cassés les dents sur ce peloton lancé à vive allure, emmené par les Cannondale, les maillots vert fluo, coéquipiers de celui qu'on surnomme Hulk dans le peloton, Peter Sagan, qui pour l'instant fait la course parfaite.
Et Cyril, 38 secondes d'avance à 22 km de l'arrivée, les Cannondale qui envoient toujours du bois derrière, c'est râpé, hein, il faut bien le dire, pour Gauthier, Backland, c'est
Basque. Il y a 33 secondes et on a vu d'ailleurs que progressivement, les équipiers du maillot jaune viennent tourner avec les Cannondale. Donc il n'y a absolument aucune chance. Et je trouve que c'est un petit peu dommage pour un coureur comme Gauthier, par exemple, puisqu'on va rester franco-français et un peu supporter, que là, il est sur 60 km, il se met à la barre devant, alors que demain ou après-demain, il y avait des étapes où il aurait peut-être eu plus d'opportunités de réaliser un coup, au même titre, bien sûr, que Vauclair ou de Pierre Roland.
Oui, mais depuis le début du tour, Cyril, tous les jours, il y a eu un Europcar devant, hein, dans l'échappée du jour, sauf hier, il n'y a pas eu d'échappée, mais autrement, à chaque fois, ils ont eu un homme.
Oui, mais il y a des moments où vous pouvez y aller. Pierre Roland est sorti sur les premières étapes en Corse, mais il a fait des efforts de 5 à 6 minutes sans avoir une grosse bagarre, alors que là Cyril Gauthier, il se met à la planche depuis le début de cette échappée, c'est-à-dire que ça fait déjà à peu près de 50 km qu'il est à la planche. Ces efforts-là, demain, il va les payer, c'est demain ou après-demain.
C'est vraiment du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage. Et je vais juste
terminer, Lucho. C'est que quand vous partez dans une échappée, regardez toujours qui est avec vous et qui a intérêt à rouler. Mmh. Et tout de suite, il faut vous dire ça c'est pas bon ou ça c'est bon. Si c'est pas bon, il vaut mieux la condamner, refaire un point zéro et on va relancer la course avec d'autres équipes.
Mais alors qui est-ce qui décide à ce moment-là? Parce que maintenant, avec les oreillettes, c'est le directeur sportif qui dit non, tu vas pas, ou oui, tu vas.
C'est un directeur sportif.
Ouais, le problème, souvent, c'est qu'une fois que t'es parti, on dit tu fais de l'antenne. Quoi.
Ben voilà.
8 km de l'arrivée, des routes toutes plates désormais pour rallier Albi au terme d'une étape très vallonnée, voire escarpée en traversant la Montagne Noire. Elle a fait des dégâts cette étape. Ils sont trois à l'avant de la course. Le Français, Breton de l'équipe Europcar, Cyril Gauthier, accompagné du vainqueur de l'étape d'Ajaccio en début de Tour de France, le Belge Yann Bakelants, et le Basque Juan José Oroz. Ces trois-là comptent une avance qui diminue, 12 secondes. Dernier pointage à moins de 8 km de l'arrivée sur un peloton maillot jaune et maillot vert, et emmené par les maillots vert fluo de l'équipe Cannondale, car le grand favori aujourd'hui s'appelle Peter Sagan. C'est lui qui a donné la consigne à ses équipiers de rouler dans le col de deuxième catégorie de la journée au cœur de la Montagne Noire. Mission accomplie pour lui pour l'instant, puisqu'il a réussi à sortir du jeu les sprinteurs Mark Cavendish, André Greipel ou Marcel Kittel, qui naviguent désormais à 12 minutes de la tête de course. Ils ont perdu la partie à la veille de l'arrivée de la course dans les Pyrénées. On n'aura pas une victoire de ces sprinteurs vedettes, mais on aura probablement une arrivée arrivé au sprint, 10 secondes d'avance pour les trois hommes de tête.
La moto RMC qui se trouve toujours au contact des trois hommes de tête à 6 km de l'arrivée. Georges.
Dans la traversée de Puy-Gouzon, devant les trois coureurs de tête, Cyril Gauthier qui pour l'instant est en train d'assurer le relais, qui relance, mais c'est désormais impossible. Voilà, ils sont en train de se regarder, les trois hommes qui voient derrière eux. Ils sont à une centaine de mètres, les premiers coureurs qui composent le peloton. On peut distinguer l'armada verte fluo de la formation Cannondale, les coéquipiers de Peter Sagan qui sont à une cinquantaine de mètres. On est vraiment sur des routes toute plate sur une deux voies, c'est parfait pour le peloton pour revenir sur les trois hommes de tête qui sont en train de se retourner et qui vont être dévorés dans quelques instants par le peloton. Ils n'ont plus qu'une dizaine de mètres d'avance à 5 km de l'arrivée. On arrive à Albi.
Oui, c'était de toute façon une tentative vouée à l'échec, Cyril, pour ces trois hommes de tête, car on le rappelle, Backland c'est dans ce groupe. Backland c'était dangereux pour le classement général. Et surtout, eh bien, il y a un certain Peter Sagan qui n'a toujours pas remporté la moindre étape depuis le début de ce tour et qui rêve de l'accrocher aujourd'hui. Il n'a pas le droit de se rater, vu le travail fourni par ses équipiers depuis le début de l'étape, Cyril.
Oui, il n'a pas le droit. Attendez, on est.
Il n'a pas un code, mais. Bon, autrement, il mange tout seul à la table ce soir.
Sauf qu'il a déjà pris 20 points pour le maillot vert sur le premier sprint, sur le sprint en cours d'étape. Et que là, quoi qu'il arrive, il sera de toute façon dans les 3 ou 4 premiers, qu'il aura fait le break pour le maillot vert. Donc même s'il ne gagnait pas l'étape, ce serait une déception pour lui. Mais si on regarde les points positifs, c'est quand même le maillot vert qui est son objectif à Paris. Donc sur ce plan-là, le bilan n'est pas ou ne sera pas de toute façon négatif. Si en plus il l'emporte, eh bien tant mieux, puisque là, rappelez-vous, l'an dernier, après 6 étapes, il en avait remporté 3. Là, il n'a fait que 3 fois second, mais il a quand même des adversaires derrière lui pour ce sprint. Il y a Boissenhagen qui est là, il y a Rojas de la Banesto, il y a Samuel Dumoulin ou Simon il chute.
On est à 4 km de l'arrivée. Oui, le peloton a négocié un rond-point et c'est vrai que les premiers coureurs, les 4 et 5e coureurs des coéquipiers de Peter Sagan chez Cannondale ont été ralentis puisqu'ils se sont déportés dans le rond-point.
Oui, il y avait vraisemblablement un peu de gasoil dans ce virage. Donc il y a également Galopin s'il est présent.
Et puis surtout, il y a Cyril.
Simon Guérande.
Ou Matthew Goss, me semble-t-il.
Non, je l'ai vu.
Alors, dans ces cas-là, j'ai une deuxième carte, c'est John Degenkolb.
Alors,
qui est bel et bien
je
présent.
N'ai pas vu Degenkolb derrière.
Eh bien, je suis quasiment certain, et je vous l'affirme même, que Degenkolb, le deuxième sprinter de l'équipe Argo Shimano, coéquipier de Marcel Kittel qui s'était imposé le premier jour à Bastia, Degenkolb jouera bel et bien des coudes, a priori, avec Peter Sagan et les autres sprinteurs passe-partout, va-t-on les dénommer, pour cette arrivée à Albi.
Voilà, il y a des équipes de sprinteurs qui sont en train de remonter le long du peloton et qui vont prendre le relais des coéquipiers de Peter Sagan, la formation Cannondale qui ont beaucoup donné depuis le début de cette étape. Il risque d'être un peu entamé, Lucho, quand même, pour le sprint, hein, les coéquipiers de Sagan, parce que vu le travail fourni, maintenant il va falloir l'amener au sprint quand même, Sagan. Hein, c'est pas encore gagné pour lui.
Oui, il va falloir faire la finition. Là, on est à 3 km de l'arrivée. Ils sont toujours bien regroupés. Toute l'équipe est derrière, bien devant Peter Sagan pour l'emmener dans le dernier kilomètre. Alors, c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait au moins 2, voire 3 équipiers, mais il en reste a priori 3 devant Peter Sagan. Donc, il y en a 2 qui devraient vraiment faire le boulot jusqu'à environ 800 mètres de l'arrivée. Et le dernier qui va essayer de lancer le sprint pour Sagan, parce qu'il ne faudrait pas que Sagan soit isolé par rapport aussi aux autres sprinteurs qui sont encore ici devant dans l'échappée.
Allez, on va mettre un peu de rythme. Nous sommes à 2 km 600 de l'arrivée. Le sprint est en train de se préparer. Échappée terminée, Fred.
Jonction, effectivement, aux 3 km. Fini le rêve de Yann Bakkeland, Cyril Gauthier et Juan José Oro. C'est bel et bien une arrivée au sprint qui va achever cette 7e étape entre Montpellier et Albi. Le peloton dans les longues lignes droites pour longer la magnifique cathédrale d'Albi et aller en terminer terminé au bout d'une ligne droite longue d'un kilomètre 200. Ce sprint s'annonce royal et il est bien préparé, toujours par les Cannondale de Peter Sagan.
Alors Fred, est-ce que tu as pu faire le bilan, savoir quels étaient les sprinteurs, les forces en présence pour ce sprint? Évidemment, Peter Sagan est là. Est-ce qu'il y a d'autres costauds du sprint qui sont présents dans ce groupe?
On va parler des absents. Les absents s'appellent Cavendish, Greipel, Kittel, Rojas n'est pas là non plus, et Matthew Goss, l'Australien de l'équipe Orica Green Edge, présent à l'avant dans le groupe maillot jaune et maillot vert avec plus de 11 minutes d'avance sur les attardés. On a là évidemment Peter Sagan, on a là John Degenkolb, les frères Van Poppel ne sont pas là chez Vacances Soleil, Sylvain Chavanel est actuellement aux avant-postes, et il faudra surveiller également Philippe Gilbert, le champion du monde qui peut aller vite en petit comité, mais là on a quand même un groupe de près de 120 unités. Philippe Gilbert qui est dans les 10 premiers actuellement à la flamme rouge avec Sylvain Chavanel.
Les 1000 derniers mètres maintenant pour cette 7ème étape. Peter Sagan va-t-il enfin décrocher sa victoire d'étape aujourd'hui, Fred?
Deux équipiers Cannondale pour emmener le Hulk, le monsieur muscle de l'équipe américaine, le jeune Slovaque qui laisse pour l'instant la main dans ce sprint au coéquipier de John Degenkolb, l'allemand de la formation Argos. Le sprint qui est lancé sur la gauche de la route par les coéquipiers de Mallory, notamment les
Lamprey,
Kimolai, avec les Cannondale. Ça y est, qui reprennent la main à 500 mètres. Les Cannondale qui n'ont compte plus que deux coureurs, un équipier de Sagan et Sagan lui-même. Mais on coince à l'avant du peloton et John Degenkolb est en train de déborder tout le monde. Le sprinter allemand de l'équipe Argo Shimano a dans sa roue Peter Sagan. Sagan qui débouche à 200 mètres. Sagan sur la droite de la route qui va aller faire parler sa fréquence de pédalage pour remporter sa 4ème étape sur le Tour de France. Victoire du Slovaque, maillot vert du Tour de France, Peter Sagan, devant un coureur de l'équipe Saxo. A priori, Daniele Benatti a confirmé tout de même. John Degenkolb a menacé jusqu'au bout Peter Sagan, mais ce diable de Slovaque a fait, en compagnie de sa formation Cannondale, une course absolument parfaite aujourd'hui. Il a profité du terrain pour mettre hors jeu la concurrence des purs sprinteurs et aller faire à nouveau son show là-bas au bout de cette longue ligne droite ici à Albi. Ça y est, il débloque son compteur. Lui qui avait terminé trois fois deuxième et une fois troisième depuis le départ de ce Tour de France vient décrocher un bouquet amplement mérité. Le champagne devrait couler à flot pour le maillot vert et ses coéquipiers ce soir à l'hôtel.
Et voilà, mais on le disait, il n'avait pas le droit de se rater sur ce sprint vu le travail fourni par ses équipiers tout au long de l'étape. C'est grâce à ses équipiers aujourd'hui que Peter Sagan remporte cette étape. C'est un véritable travail d'équipe qui a été réalisé par la formation Cannondale. Ils ont réussi tout d'abord à décramponner les autres sprinteurs, Cavendish, Greipel et autres, et puis ensuite à revenir sur l'échappée, amener Sagan royal dans un fauteuil pour ce sprint. C'est vrai que Cyril, le travail accompli aujourd'hui par la formation Cannondale est un travail d'école.
Un travail d'école, oui, on peut l'appeler comme ça dans la mesure où ça gagne, mais il fallait absolument aussi une équipe très solide, très motivée, où tout le monde a fait preuve de beaucoup d'abnégation. Vraiment un travail énorme tout au long de cette étape. Je pense qu'à partir de demain et pendant deux jours, et y compris lundi là-bas à Saint-Nazaire, ils vont faire trois étapes de repos.
Voilà, évidemment, parce que là c'est la montagne et que Peter Sagan n'est pas un grand grimpeur. Cyril Gauthier est aux côtés de Pierre-Yves Leroux derrière la ligne.
Allez, on va l'écouter Cyril alors que le maillot jaune passe juste derrière nous.
Qui aujourd'hui encore? Dès le départ, j'ai essayé dans le coup et j'ai pas fait. C'est un moment qui est parti d'emblée. Et j'étais en chasse-patate tout seul. Donc voilà. Et du coup, voilà quoi. Après, le coup de deux est parti, on est revenu dessus. Et ça a bien monté le deuxième col. Et ça a cassé. Moi j'étais bien placé comme je plaçais Pierrot. Et après j'ai décidé, quand j'ai vu Backland y aller, je voulais essayer d'être devant. Voilà quoi, ça a peut-être pu aller au bout. Sagan en a décidé autrement.
Insister, hein,
pour gagner, il faut insister. Mais je vais continuer comme ça, sur ma lancée.
Quand vous avez vu que Yann Backland c'était avec vous, vous avez dit que c'était condamné.
Condamné, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Une chute à un leader, je sais pas, le hasard des fois fait que la course peut chavirer. Il était très fort, donc je le laissais passer plus que que moi, quoi, bien sûr. Après, j'y ai mis quand même, j'ai mis du cœur. Voilà, c'est revenu à trois bornes. Mais bon, si les jambes sont bonnes, on réessayera. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est être acteur. Et puis, quand j'en gagnerai une, comme bah, ce sera avec les jambes.
Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
Cette victoire, Sagan et toute la formation Cannondale la doivent qu'à eux-mêmes. Ils ont fait un travail remarquable tout au long de la journée. Travail tactique en éliminant tout d'abord les autres favoris pour le sprint, à savoir Cavendish, Greipel et les autres. Et puis ensuite, en revenant sur les échappés, en préparant de manière spectaculaire le sprint pour Peter Sagan, qui n'a plus eu qu'à aller mettre la balle au fond. Et ça, il sait faire. Ils sont là avec moi. J'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir, monsieur le druide.
Bonsoir.
Thierry Bourguignon est également avec nous, comme tous les soirs. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Et le Club Blanc qui nous rejoint également. Salut, salut Lucho.
Salut.
Alors, messieurs, Peter Sagan, je voudrais d'abord avoir votre avis. Est-ce que vous avez été impressionné par son travail et surtout par celui de son équipe aujourd'hui? Thierry, on va commencer par toi.
Impressionné par l'équipe surtout, puisque jusqu'à présent je disais que il n'était pas épaulé avec une équipe un peu tendre à mon goût pour lui emmener les sprints. Là ils ont joué tactique, ils ont fait sauter tous les sprinteurs qui pouvaient le battre pratiquement, et puis ils ont joué très fort puisqu'ils ont fait 140 km de poursuite.
Évidemment, c'est un très beau travail.
C'était vraiment une chasse patate entre l'arrière et l'avant, et puis l'arrière a déposé les armes, arrive à un moment et est arrivé à pratiquement un quart d'heure.
Ouais, c'est vrai que ça a été une redoutable tactique qui n'a pas déplu du tout à l'ancien directeur sportif qui est Cyril Guimard. C'est vrai que là, c'est magnifique de voir un travail comme ça réalisé. J'imagine que le matin, avant le départ de l'étape au briefing, on essaye d'établir ce genre de plan. Mais là, pour que ça marche aussi bien, il faut avoir du talent, mais aussi un peu de chance.
Il faut avoir une équipe très motivée. Il faut surtout également avoir des coureurs qui ont une totale confiance dans leur leader, parce que quand vous vous mettez à la planche toute la journée, il faut vraiment, vraiment avoir confiance dans son leader. Mais je crois qu'ils peuvent avoir confiance, même si s'il s'était raté depuis le départ de ce Tour de France, puisqu'il avait terminé trois fois deuxième, alors que l'an dernier, à la même époque, il avait déjà remporté trois étapes sur le Tour de France, c'est-à-dire une étape sur deux lorsqu'on est arrivé à la sixième. Et puis, c'est un parcours qui... C'est un parcours qui permettait ce genre de choses, avec un col pas très très difficile, mais quand même un col de deuxième catégorie. Il y avait le maillot vert qui était en jeu, la victoire d'étape. Il a fait rouler ses équipiers et tous les sprinters ont sauté. À partir du moment où tous les sprinters ont sauté, eh bien, il n'y avait plus qu'à assurer un tempo et surtout à faire en sorte que le groupe des sprinters, un groupe qui était quand même composé de 85 coureurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait sauter presque la moitié du peloton. Alors bien sûr, pas les grimpeurs. Et ensuite, eh bien, ils les ont maintenus à 2 minutes derrière, n'ont jamais pu rentrer. Ils ne se mettaient pas à fond, mais derrière, ils ne pouvaient pas boucher le trou. Ils se sont relevés. Et puis, ils savaient que de toute façon, dans le final, en fonction des différentes attaques, eh bien, ils bénéficieraient du travail de l'équipe de l'équipe du maillot jaune, de l'équipe Green Edge.
Très bien. Donc, victoire de Peter Sagan. Lucho, je voudrais avoir ton sentiment sur ce personnage. Car Peter Sagan, c'est un personnage. C'est pas seulement un bon coureur cycliste. C'est une véritable personnalité, une belle gueule. Un garçon qui n'a pas la langue dans sa poche, qui fait des facéties de temps en temps. Bref, c'est le genre de coureur qu'on aime bien. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, dans le peloton des comme lui. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est un très très beau coureur. Et puis en plus, bon, il est jeune, il n'a que 23 ans. Et puis ce n'est pas qu'un coureur aussi de course à étapes où il remporte les étapes. C'est vrai que c'est sa quatrième étape sur le Tour de France. On l'a vu remporter aussi des étapes sur le Tour d'Espagne. Et il a quand même gagné Gent-Wevelgem aussi cette année. Ça veut dire que c'est un coureur de classique aussi et qu'il faudra compter sur lui.
Il est capable de tout.
Et encore une fois, il n'a que 23 ans. Donc il a un très très grand avenir. Et c'est vrai qu'il a du carré. C'est un beau gosse, il ressemble un petit peu à Robin des Bois, quoi, la Sherwood, la forêt, celui qui veut.
Oui, en plus, il a la tenue verte de Robin des Bois.
Oui, voilà, tout à fait. Non, mais franchement, ça fait du bien au cyclisme, hein, en règle générale, de voir un garçon comme lui arriver et puis donner une très très belle image de notre sport.
Exactement. Donc, Peter Sagan, beau vainqueur aujourd'hui. Cyril, on a eu 4 sprinteurs vainqueurs depuis le début de ce tour. C'est vrai qu'habituellement, les années précédentes, il y en avait un qui se démarquait. Tu disais que l'année dernière, par exemple, Peter Sagan avait remporté 3 étapes sur 6, ou ensuite il y a eu Cavendish. Là, la hiérarchie est difficile à établir, hein, entre Cavendish, Greipel, Kittel, Sagan. C'est qui le plus fort des 4?
Logiquement, on va pas se dédire. C'est quand même Cavendish de par son palmarès aujourd'hui, surtout dans certains types d'arrivées. Mais il a aussi de temps en temps, eh bien, des adversaires qui peuvent le titiller, voire le bas.
battre. Je pense que sur la régularité, sur tout type de parcours, Peter Sagan est beaucoup plus complet. Kittel, lui, est dans le même registre que Cavendish, mais il faut que ce soit vraiment plat ou avec sa avec son poids et sa puissance de démarrage, eh bien il arrive à faire des différences. Et puis il y a le gorille de Rostov,
de Rostov.
Ah, c'est pas en Bretagne, Rostov. Qui lui aussi est un petit peu Rostov. Dans le même registre, mais bon. Cavendish, c'est le numéro 1. Le plus complet, c'est Peter Sagan.
Le plus complet, c'est Peter Sagan. Mais bon, il est porteur du maillot vert, Thierry. Quand on est maillot vert, c'est qu'on est le meilleur sprinter, non?
Oui, disons que on se place à chaque fois. Et sur ce début de tour, il s'est toujours placé. Il va gagner encore quelques étapes, je pense. Et il va rarement se tromper. Il faire les étapes avec des faux plats montants quand il y a tous les sprinters avec lui. C'est là-dessus qu'il est impérial. Une étape de avec une arrivée grande ligne droite où les équipes emmènent bien leurs sprinteurs, il a un petit ton en dessous et c'est un peu dommage. Bon, mais il est très complet, comme disait Cyril. Il passe les bosses et il passe même très bien les bosses. On a vu aujourd'hui qu'il a fait rouler et c'est là qu'il a gagné, hein, déjà.
Ouais, ouais. Cyril, tu es d'accord avec ça? C'est le porteur du maillot vert, c'est le meilleur sprinteur du peloton ou c'est effectivement celui qui est le plus complet, qui sait aussi bien emporté dans des sprints un peu en montée, dans des sprints qui interviennent après des côtes, des sprints en descente, des sprints sur le côté, des sprints en diagonale. Bon, c'est tout faire, ce garçon, quand même. Hein.
Oui, puis il sait sauter les trottoirs aussi. Oui, non, mais le maillot vert, c'est la régularité. On n'est pas obligatoirement en vitesse pure le plus rapide, puisque plus rapide, on l'a déjà dit, c'est Cavendish. Mais seulement si une étape est dure, avec, sans parler même de col, avec un certain nombre de côtes qui se succèdent les unes aux autres, Peter Sagan arrivera plus frais. Et non seulement il arrivera plus frais, mais il arrivera à faire également la différence. Donc c'est quand même à la fin du compte le meilleur sprinter qui remporte le maillot vert, mais pas le plus rapide. Mais le meilleur sprinter sur l'ensemble du Tour de France.
C'est pas forcément le plus rapide, mais c'est forcément le plus complet.
Comme le classement de la montagne.
C'est pareil, ouais.
Le classement de la montagne est pratiquement toujours gagné par un coureur qui n'est pas le meilleur grimpeur. Parce que pour gagner le classement de la montagne, il faut partir dans des échappées, un petit peu à la Virenque. Virenque n'était pas le meilleur grimpeur. D'ailleurs, il a gagné peu d'étapes, hein, où le peloton était groupé au pied d'une ascension finale. Il était toujours dominé. Mais sur des successions de cols, eh bien, il arrivait, en partant de loin, parce qu'il n'avançait pas contre la montre, à aller chercher des victoires d'étape. Mais le meilleur grimpeur, pour moi, dans le Tour, c'est quand même celui qui gagne le Tour.
Ben oui, c'est vrai, forcément. Et oui. Même si de temps en temps, il y a des années où les contre-la-montre
ont fait,
les contre-la-montre de temps en temps, Thierry, ont pris le pas sur les arrivées en altitude. Il y a des années où quand on avait des contre-la-montre de 60 km où il y avait des écarts énormes, ça pouvait être aussi un rouleur.
Oui, ben si on prend les années Anquetil, c'est vrai qu'il s'est retrouvé avec des Charlie Gaulle, avec des Bahamontes qui étaient des purs grimpeurs.
Seulement. Meilleur grimpeur que lui, en plus.
Sauf que ils étaient incapables de faire une descente et qu'ils étaient souvent là une étape sur deux, parce que pour gagner le Tour de France, faut être là dans toutes les étapes de montagne. Donc il y a certaines étapes où vous êtes obligé aussi de laisser du lest et puis de laisser et souvent d'ailleurs de laisser le maillot de la montagne à un adversaire ou à un semi-adversaire qui ensuite va être dans l'obligation de collaborer avec vous dans certaines circonstances. Le vélo, c'est aussi de la stratégie.
Et c'est surtout de la stratégie.
En fait, les maillots de Tour, c'est vraiment, ça récompense la régularité de tout ça. Les régularités sur l'ensemble, c'est le jaune. La régularité sur le grimpeur, bon, là c'est entre parenthèses, on va dire, parce que il peut arriver la stratégie de partir de très loin sur deux grosses étapes de montagne et marquer plus de points que les autres. Mais autrement, le sprint, c'est ce qu'on vient de dire.
Ouais, le sprinteur les plus complets, ouais. Les sprinteurs les plus complets, pas obligatoirement les plus rapides. Tiens, Nicolas, nous appelle au 32-16, il nous appelle d'Ille-et-Vilaine, évidemment, région de cyclisme s'il en est. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir à toute l'équipe. Salut, Luxo. Salut, Cyril. Salut.
Salut.
Bonsoir, Nicolas. Alors, tu as été impressionné par cette étape et par le travail réalisé par la formation Cannondale, cette belle stratégie aujourd'hui.
Oui, parce que tu sais, nous les organisateurs, Christophe, on est souvent, on voit plus souvent des courses avec des coureurs qui prennent des initiatives. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié, c'est de voir une équipe avec les coureurs prendre donc des initiatives. Ils ont osé, ils ont été récompensés. Moi, c'est ce que je voudrais bien voir en montagne dans quelques jours, une équipe comme ça qui prend un peu de risque, comme Cyril le faisait avec ses équipes à l'époque.
Mais oui, ça serait bien. C'est vrai, l'initiative est récompensée là ce soir, Cyril.
Oui, l'initiative est récompensée, mais on ne prend pas des initiatives pour prendre des initiatives. Les initiatives doivent être bien calculées. Comme je dis toujours, l'improvisation, c'est ce qui est quand même le plus, c'est ce qu'on prépare le mieux. Et c'est vrai que lorsque vous arrivez à bien analyser le parcours, les conditions de course, c'est-à-dire climatique comme aujourd'hui, l'état de fraîcheur des adversaires, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre en place une stratégie et passer à l'offensive. C'est vrai que je l'ai souvent fait et lorsqu'on le fait, il faut pas se rater. Et aujourd'hui, l'équipe Cannondale c'est pas raté. Je me souviens une année, on a gagné le Tour d'Italie sur 2 700 km, 2 700 km où on a monté un coup de bordure, mais ça faisait 3 jours qu'on le préparait.
Eh oui, c'est ça, ça se prépare tout ça, mon bon monsieur.
En tout cas, je voulais vous féliciter tous parce que vous faites vraiment du super travail et c'est vrai que c'est un plaisir pour nous auditeurs et on a hâte à vous rejoindre en Bretagne parce que dans quelques jours vous êtes chez nous et j'ai hâte à vous rencontrer. Sur le tour, j'y serai moi aussi à Saint-Malo et Mont-Saint-Michel et à Fougères.
Eh ben super, Nicolas, on a hâte de te rencontrer également. Tu viendras nous faire un petit coucou au camion et intervenir dans nos débats. Bonsoir, Nicolas. Allez, on va revenir dans quelques instants, toujours ici en direct d'Albi, au soir de la 7e étape du Tour de France et à la veille surtout de cette première grande étape de montagne. La stratégie, justement, quelle sera la stratégie demain des différents leaders? Va-t-il y avoir de la bagarre? Va-t-il y avoir déjà des défaillances? Parce que c'est vrai que le peloton arrive un peu entamé après cette première semaine de Tour de France. On en parle dans un instant. La Dream Team reste avec moi.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Et nous sommes ce soir au pied de la montagne, au pied des Pyrénées, premier massif montagneux de ce Tour de France. Il y aura 2 étapes cette année, avant évidemment les Alpes. Ça sera la dernière semaine et le véritable plat de résistance de ce Tour de France. En attendant, il va se passer de belles choses, on l'espère en tous les cas, dans les Pyrénées. On va en parler toujours avec Cyril Lucho et Thierry. C'est vrai que, Cyril, on se faisait la réflexion tout à l'heure dans le direct. Le peloton arrive quand même un peu entamé au soir de cette 7e étape avant d'aborder les Pyrénées et on peut craindre, en plus il y a la chaleur qui vient se mêler à la fête, il fait très chaud et il fera très chaud dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut craindre dans les 2 jours qui viennent déjà des défaillances de grands leaders? Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que lorsqu'on aborde les premières étapes de montagne, on reste quand même assez frais et on peut s'attendre à ne pas voir beaucoup de défaillances? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'on risque de voir quand même un certain nombre de défaillances plus ou moins spectaculaires, mais ce Tour de France a été très exigeant depuis le départ. Jamais on a eu un parcours aussi difficile, même si on a retrouvé des sprinters qui l'emportaient. On n'a pas eu pratiquement, à part l'étape de Marseille et l'étape d'hier, mais l'étape d'hier arrivant à Montpellier avec un vent énorme qui a énormément sollicité les coureurs. On a des coureurs qui vont attaquer donc ces 2 grandes étapes pyrénéennes en étant quand même pas mal entamés. Ouais. Allez, aujourd'hui, 85 coureurs ont été éjectés et finissent à un quart d'heure. C'est-à-dire presque la moitié du peloton et nous ne sommes que le 7e jour dans une étape où il y avait un petit colloyon là de qui montait qu'à 6% et pas très longtemps. Eh bien, presque la moitié du peloton a explosé là-dessus. Mmh. Ce qui veut dire que beaucoup de coureurs commencent déjà à donner des signes de fatigue, des signes de faiblesse. Et si les petits coureurs, enfin, ne parlons pas des sprinters qui, eux, se font sortir normalement. Si au niveau des moins forts, on a pu voir ce qu'on a vu aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'au niveau des leaders, il y a un peu de misère dans les cuisses.
Alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils sont fatigués et on comprend avec ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. D'un autre côté,
la course n'a pas été simple.
D'un autre côté, il y a aucun des grands leaders qui n'arrive touché dans sa chair. Mis à part Rodriguez qui a chuté à 2 reprises, mais c'est vrai
Quintana
aussi. Mais bon, c'est juste un peu de vernis. C'est un peu de vernis. C'est quand même très important d'être au top de sa condition physique, de ne pas avoir de douleur, de ne pas être malade, parce qu'il a fait plutôt beau depuis le début de ce tour. Et ça, l'autre chose, c'est important, hein, avant d'attaquer la montagne, même si on est un peu fatigué, de savoir qu'on a quand même la condition, c'est le plus important, non?
Non, mais oui, mais de toute façon, la fatigue, elle est pour tout le monde. De toute façon, les leaders qui veulent gagner le tour aujourd'hui, la première semaine, ils l'ont fait ensemble, donc c'est sur la récupération que ça va jouer maintenant au fil des jours. Donc la première étape de montagne, c'est vrai que c'est, on l'appréhende toujours. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un développement d'un grand plateau 53 à 11 à pratiquement 39, 21, 23. Donc il va y avoir un changement de braquet, il va y avoir un changement de rythme, et ça, il va falloir que les coureurs puissent l'assimiler d'entrée. Parce que quand on regarde l'étape de demain, les 120 premiers kilomètres, c'est légèrement vallonné, mais ça sera grand plateau, 53. Et d'un seul coup, ils prennent le col de Payère. Et ouais, c'est 15 kilomètres à plus de 8%. Donc là, il va y avoir un changement de développement et un changement de rythme. Il va falloir s'y tenir, et que ce soit pour les, surtout pour les leaders, puisque c'est les leaders que ça concerne demain. Donc, il va falloir se méfier. Et ben c'est à celui qui saura le mieux assimiler ce changement de rythme et ce changement de braquet qui pourra peut-être éventuellement faire la différence sur l'arrivée demain à Axe 3 Domaine.
Alors tout à l'heure Cyril nous parlait de fracture de la face, hein, c'était évidemment une image Thierry, mais quand on arrive comme ça à lancer et qu'on se prend le port de Payère en pleine figure, ça dure que 15 km, mais ces 15 km vont être longs pour certains, hein.
Ah ben 15 km à 8% de moyenne avec des passages à 10, ça risque de faire très très mal. Et comme on dit dans le jargon de cycliste, on va se le prendre en pleine poire. Ça risque d'être une belle étape si je l'espère, les ténors se mettent une petite danse et que quelques leaders prennent l'initiative de tacler un peu leur concurrent dans ce premier col, parce que après on redescend de suite avec une descente assez rapide sur le pied à Axe-les-Thermes, et puis Axe-les-Trois-Domaines, ouais, on la connaît, ouais. 7 km même, non, oui, 8 km pratiquement, 8 km avec des passages aussi à 10 km, ouais, à 10%, ouais. Ça va être vraiment un final très 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 sympa. Ouais.
Très bien, alors on va écouter justement quelles sont les stratégies et ce qu'on peut attendre de cette étape de demain. On va tout d'abord écouter Dave Braceford, qui est le manager de la formation Sky, qui avait remporté le tour l'an dernier avec Bradley Wiggins, qui compte bien faire la même chose avec Chris Froome cette année. L'année dernière, c'est vrai que la Sky avait cadenassé la course, impossible de s'échapper du peloton. Vont-ils adopter la même formule et la même tactique à partir de demain? La réponse du patron de Sky.
On a beaucoup contrôlé l'an passé, mais cette année, je pense qu'il y aura eux qui tentent leur chance beaucoup plus tôt. Alors, on va voir comment on va gérer ça, mais je pense que ce qu'on a fait l'année passée, peut-être, c'est pas le bon tactique pour cette année. Je pense que pour ceux qui savent qu'ils sont pas si forts que Chris en contre-monde, c'est logique qu'il n'y a pas énormément d'opportunités. Alors, il faut prendre l'opportunité quand on l'a. C'est la première opportunité, alors c'est normal que tout le monde va essayer de faire quelque chose quand même.
Alors, tout le monde va essayer de faire quelque chose, mais a priori, quand même, la Sky va quand même essayer de contrôler Cyril, hein, ça avait bien marché l'année dernière. Braceford nous dit que ça va être plus difficile, mais a priori ils ont quand même les forces, en tous les cas au départ du tour ils avaient les forces pour le faire. Vont-ils avoir véritablement les forces? Parce que tu nous le disais là aussi tout à l'heure, ils sont un peu entamés, peut-être pas Chris Froome mais les autres, hein.
Oui, mais lorsqu'on écoute le discours de Dave, on se rend bien compte, parce qu'il n'est pas idiot non plus, il n'est pas spécialement langue de bois d'ailleurs, je crois qu'il faut le souligner. Il a une analyse qui est relativement juste, et quelque part il fait passer un message aussi, hein, en disant bah écoutez, ne comptez pas sur nous pour faire comme l'an dernier avec des coureurs qui prennent le pied d'école et qui vont jusqu'au sommet à vitesse grand V avec derrière Froome et Wiggins. Ça c'était l'an dernier, et Richie Porte également. Mais leur équipe aujourd'hui est quand même très diminuée, ils ont trois coureurs qui finissent aujourd'hui à plus de 15 minutes. Stannard est quand même tapé, est quand même à chuter. Geraint Thomas également. Kirianka, qui devait faire partie des coureurs qui assument les montées de col, a fini très loin aujourd'hui. Il a fini.
Est-ce que c'était pas pour se préserver,
oui,
pour demain?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ça peut être une tactique.
On ne prend pas ce risque-là, parce que si un coureur comme Kirianka, quand il marche, c'est pas le train des rouleurs sprinters, on va dire, de Cannondale qui vont le faire sauter. Il est quand même relativement suffisamment économique pour ne pas se faire mal aux jambes, oui, dans ce genre d'ascension.
Oui, mais Cyril, est-ce qu'il s'est pas fait piéger en traînant derrière et puis après ben il s'est dit bon bah
ouais. Non, mais ils ont déjà trois coureurs dans la première chute au bout de 11 km hein.
Oui, ça c'est un signe aussi, hein, quand aussi, ça tombe. Hein. Quand on tombe, on dit toujours qu'on est c'est aussi parce qu'on est un peu dans la caillasse, qu'on est au mauvais endroit. Et c'est vrai que quand on est prêt à gagner un tour, on l'a vu l'année dernière, toute l'équipe était devant. Et devant, ça chute beaucoup moins.
Ouais, donc Byford, il est conscient que son équipe n'est pas celle de l'an dernier, qu'il va falloir jouer sur un autre registre, et que il va falloir tout simplement, et c'est le message, je crois, qu'il fait passer. Bon, bah, écoutez, si vous voulez gagner le tour. Ah, voilà. Faudra me lâcher.
Allez-y, messieurs, tirez les premiers.
Voilà, on va se retrouver à la guerre de 100 ans.
Ouais. Tant mieux.
C'est rare que les Anglais nous disent de tirer les premiers. D'habitude, c'est eux qui le font. Enfin,
ouais, attention, c'est peut-être du bluff. Hein.
Ouais, Lucho, c'est du bluff. Qu'est-ce que tu en dis? La Sky, tu la sens aussi forte que l'an dernier?
De toute façon, pour gagner le tour, certes, il faut avoir les équipiers. Mais dans le dernier col, dans les dernières ascensions, il n'y aura pas besoin d'équipiers parce que les leaders de chaque formation seront ensemble.
Tu penses que Froome va attaquer demain, par exemple?
Mais de toute façon, pour gagner le tour, il faut attaquer. Donc, Froome, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire parce que demain, bon, même si c'est un petit peu tôt, ok, d'accord, il va être attaqué. Eh bien, la meilleure façon de répondre, c'est de contre-attaquer. S'il en a les moyens, il en aura les moyens. Et de pouvoir même, à la limite, gagner l'étape et dire, oh les gars, voilà, vous avez
mais du
moi,
mais
non, moi, je pense une chose. Hein. C'est que, comme ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas intérêt à prendre le maillot demain.
Bien
parce
sûr.
Parce que sur les 5 cols de l'étape qui arrive à
toute dernière,
avec déjà, vous avez le porté d'aspect et derrière, vous avez le manté. Je suis désolé, si tu te retrouves tout nu en haut mais Monté, t'es mal.
J'ai pas dit qu'il allait prendre le maillot demain, mais à la limite.
Mais s'il gagne l'étape, il prend le maillot.
Même s'il ne gagne pas l'étape, qui est-ce qui va rester devant lui? Alors, on a Simon Guérant, Impe, Albazini, Kwiatkowski, Chavanel, Boissonnaguel.
Il est 8e au général.
C'est lui qui est le mieux placé de tous les
au classement général, il est
7e. Favoris de ce tour. Contador est à 6 secondes. Il faut qu'il laisse Contador prendre le maillot.
Ouais, moi je pense plutôt que Contador. Et plus armé pour mettre le bazar demain. Ouais. Donc je le vois bien visser un petit peu pour esseler les Sky et Froome. Et puis après, éventuellement finir dans la dernière montée.
Vite fait pour conclure, Thierry, moi je vais te dire, de toute façon, les leaders, ils seront ensemble demain, ils vont s'attaquer ensemble, mais c'est pas forcément eux qui vont gagner. Il y aura une échappée qui va partir
de
loin.
Non, mais là, on parle de
tactique.
Mais du général, mais pour te dire, pour en arriver au général, je te dis, Froome, que ce soit Froome, Contador ou les autres, ils ne prendront pas le maillot demain.
Tu penses qu'il y aura une échappée assez importante?
On va voir dans les paris tout à l'heure.
On verra.
Je pense qu'il y a des leaders qui peuvent prendre le maillot
jaune demain. Tu lâches le maillot jaune. Ah, ben oui, mais alors lâcher le maillot jaune, ça veut dire que.
Je le lâche à Contador.
Tu le lâches à Contador.
Ah ben oui, comme ça.
Tu prends le risque de le lâcher à Contador.
Ah ben oui.
D'accord.
J'ai aucun souci d'ailleurs là-dessus.
D'accord. Alberto Contador, je pense qu'il serait content si tu lui faisais ce cadeau. Alberto Contador.
Non, il a peut-être pas envie de ce cadeau-là. Et c'est peut-être là le piège.
Ah, ils vont pas freiner tous. Hein. Ils vont
s'attend-il à la bagarre, s'il vous plaît, messieurs Alberto Contador.
Je pense qu'il peut se passer énormément de choses. Il faudra vraiment voir comment évolue la course. C'est le moment où l'on va pouvoir découvrir véritablement l'état de forme de chacun. Si certains ne sont pas bien, alors on adaptera la tactique. On verra mes sensations, mais je peux vous assurer que je me sens très bien.
Muy bien, Thierry.
Non, mais c'est ça, c'est qu'on va arriver dans le premier grand col du tour. Donc là, il y a dans le premier grand col, le pied, je pense qu'il va avoir une certaine appréhension de chacun et un test de l'adversaire. Bon, et c'est pour ça que moi, je pense que Contador va tester dans ce premier col en faisant monter un peu vite, comme il a l'habitude de faire avec les équipiers qu'il a.
Très bien, on verra si c'est la Saxo, si c'est la Sky, ou pourquoi pas Radio Schlag. Qu'est-ce que vous pensez d'Andy Schlag, par exemple?
Vous en oubliez
Andy Schlag,
hein.
Adel Evans, bon, ils sont pas mal quand même.
Il nous a promis une surprise, mais alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein, ouais. Avec
alors,
lui,
Cyril,
hein.
il est 33ème, pas sur
les Pyrénées. S'il passe à peu près correctement les Pyrénées, parce que ça doit faire à peu près un an et demi qu'il n'a pas monté un col en compétition.
Il y a deux ans. En Suisse, il s'est montré un tout petit peu, mais
bon. Oui, mais bon, est dans le tour là, on n'est pas au Tour de Suisse, c'est pas la même concurrence, c'est pas la même tension, puis on n'arrive pas avec la même fatigue dans les jambes, parce que là il y a quand même un petit peu de misère quand même dans les jambes.
Une semaine déjà, une semaine de galère.
Et si Andy doit faire des choses, s'il doit pouvoir passer à l'offensive, il a encore besoin d'une petite semaine d'entraînement.
Ok, donc pas tout de suite, peut-être dans les Alpes. Gad Evans, bon, oui, ça pas. Il attaquera pas. Quintana peut mettre le feu.
Oui,
mais faut qu'il reste sur son vélo.
Oui, mais enfin en montée, il aura plus de facilité là. C'est
vrai. Il y a des descentes entre les deux. Eh,
non, oui. il descend très bien. C'est ça qui est gênant d'ailleurs, c'est qu'il tombe sur le plat, et il descend bien, et il monte bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui est rendu à sa troisième ou quatrième chute depuis le départ. J'ai une petite appréhension.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.